Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 49 de Vivant, Design et funéraire, avec Charlotte Kennel. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Ici Teddy Brodley de Tranquillité.fr, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant.
Je ne sais pas vous, mais dans toutes les cérémonies d'obsèques que j'ai pu vivre, j'ai toujours trouvé le mobilier froid, austère, sans âme. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Charlotte Kennel, cofondatrice de Néorite. Néorite est une jeune entreprise française de mobilier funéraire qui allie à la fois design, rituel, pour procurer aux familles un apaisement dans ces moments si intenses en émotion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Charlotte Kennel. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Vivant. Je suis hyper content de t'avoir ce matin, cette belle journée. Comment ça va ?
Écoute, très bien. Bonjour Teddy, merci beaucoup pour cette invitation dans Vivant. Et oui, ça va bien aujourd'hui.
Super, c'est bien, à chaque fois que je te parle, tu baisses les yeux, tu t'as pris des notes pour me répondre ou non ?
Pas du tout, mais j'ai toujours un carnet avec moi et un petit stylo, même si je n'écris rien.
Formidable. Bon, on va parler de toi, on va parler de monsieur, on va parler de tout ça. Vous, auditeurs, si vous connaissez pas Charlotte, vous allez découvrir un petit peu l'univers qui est le sien et qu'elle n'est pas seule, à la fois dans sa tête et à la fois dans sa vie, à la fois professionnellement. Bref, il y a plein de trucs, c'est super. Pour ceux qui te connaissent pas, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter ?
Tout à fait. Alors, Charlotte, je suis la cofondatrice de Néorite. Donc, Néorite, c'est une entreprise où on fabrique du mobilier innovant pour les professionnels du funéraire. Et je suis surtout l'associée de Julien Chevrier, qui travaille avec moi sur ce sujet.
Mais vous êtes ensemble dans la vraie vie, non ?
La question qui tue. Oui, tout à fait. Nous sommes ensemble dans la vraie vie. On se connaît depuis un petit moment. Et le projet nous a permis en fait d'avoir l'occasion de travailler ensemble parce qu'on est tous les deux designers de formation. Donc voilà.
Tu peux me raconter un petit peu voilà ton parcours. Alors tu repars de où tu veux.
Alors mon parcours pour raconter un petit peu l'histoire de Néorite. En fait le funéraire c'est un peu à hasard. On va dire la rencontre avec le funéraire c'est lié au hasard. Puisque ça part plutôt de mon côté, on va dire, plutôt que celui de Julien à la base. C'est quand j'ai fait mes études à l'étranger, donc ma quatrième année universitaire de design, je l'ai fait à Göteborg, en Suède. Et là-bas, j'avais un prof qui avait décidé qu'on allait travailler sur les funérailles de demain. Donc en fait, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à toucher au milieu du funéraire et à commencer à réfléchir qu'en tant que designer, on pouvait aussi avoir un petit peu un impact sur cette thématique-là. Puisque, bon, bah, voilà, dessiner des chaises, c'est bien. Mais travailler sur la mort, c'est mieux. Enfin, en tout cas pour moi. Et je parle uniquement pour moi. Donc c'est vraiment, on va dire, à ce moment-là que ça a commencé à faire un peu tilt dans ma tête qu'en tant que designer, j'avais une appétence pour ce sujet. Et quand je suis rentrée en France, c'était le moment où il fallait choisir un projet de fin d'études, son mémoire, enfin tout le gros
le
projet,
le petit pack, voilà.
Te prend 2 ans, il faut bien que tu choisisses, sinon tu risques de souffrir. Et en fait, moi, j'étais dans un master qui était plutôt orienté sur la ville, les nouveaux espaces urbains, etc. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je ne veux pas travailler sur la ville, enfin, je veux travailler sur les cimetières. En tout cas, je veux travailler sur la mort, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a qui représente la mort dans la ville ? Bingo, les cimetières. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller proposer ça à mon tuteur, voyez voir si ça passe quoi. Et ils ont été un peu surpris, mais je pense que comme tout le monde, quand on parle de la mort, en fait, on est tous curieux. Donc en fait, ils ont accepté. Je pense d'abord par curiosité pour savoir un peu où j'allais aller avec ça. Et donc j'ai décidé de travailler sur la place du cimetière urbain, donc la place du cimetière de la ville. Et c'est là où ça a vraiment, c'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre sur le sujet, à me renseigner, à lire des essais de philosophie, de sociologie, d'histoire du cimetière, mais quand on parle du cimetière, on parle des rituels. Et c'est là où ça a aussi titillé une corde très sensible chez moi, c'est toute la notion de ritualité. et de sens qu'on donne avec des gestes face à la mort. Et ça, vraiment, c'est ce qui a orienté après mon projet de fin d'études, où je me suis dit, j'ai encore un petit peu poussé le vice, je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire un truc dans les cimetières, mais lié au cimetière, il y a les gens, il y a les défunts, bon, bah, je vais aller dans les salles de cérémonie. Et donc, ça, mon projet de fin d'études, c'était la première version du catafalque qu'on commercialise aujourd'hui, la source. Et c'est vraiment la V1, quoi, les premières idées datent de cette époque-là.
2017,
oui.
Le premier dessin, c'est ça ?
Ouais, oui, le premier dessin qu'on a partagé la semaine dernière. Bon, on l'a retrouvé dans les placards, en fait. Et c'était assez drôle parce qu'on voit qu'il y a une forme d'innocence aussi dans la façon de la représentation. Et on n'était pas du tout contraint aussi aujourd'hui avec la connaissance qu'on connaît aussi du milieu. Mmh. C'est une forme de naïveté que des fois j'aimerais retrouver un petit peu pour, dans la créativité notamment.
Ok.
Donc voilà. Mais ça ne nous emmène pas à Julien, qui est quand même.
Non, ça ne nous emmène pas à Julien. Alors du coup, il arrive quand, Julien ?
Eh bien, Julien, il arrive qu'en fait, on était donc, tous les deux designers. Julien, il avait déjà monté sa boîte à côté. Donc, lui, c'était plutôt dans du mobilier mural, des décorations murales. Et il ne trouvait pas forcément son... Enfin, il expliquera mieux que moi, mais voilà. C'était pas, en fait, il se rendait compte que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Moi, j'avais un job alimentaire dans un autre secteur.
Nous ne dirons pas lequel.
Non, je n'ai pas de secret, mais voilà. Et en fait, justement, dans ce secteur-là, j'ai eu l'occasion de retravailler sur les sujets autour de la mort. Et en fait, cette petite réflexion, je me dis, je ne peux pas tester ce projet. En fait, le projet, à la base, ce n'était même pas une boîte. C'était comment on met la source dans une vraie salle de cérémonie, quoi. Et c'est là où Julien, il avait déjà des compétences dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on avait déjà, je l'avais déjà proposé en fait avant même que moi je rentre dans un autre taf et lui dans sa boîte de s'associer pour Neurit. Il n'avait pas voulu parce que je pense que ni l'un ni l'autre on était prêt à avoir cette association là. Et puis lui, il n'avait pas encore, je pense, cette connexion avec le funéraire qu'il a eu en fait petit à petit. Mmh. Et quand c'est lui aussi, il a commencé à être passionné par le sujet. C'est là où on a voulu partir ensemble sur cette aventure. Donc lui, il est vraiment plutôt designer produit industriel. Et moi, je suis plutôt designer donc service expérience. Donc c'est vraiment une complémentarité des savoir-faire qui fait qu'on a aussi décidé de s'associer comme ça.
C'est bien. Tu m'as parlé de plusieurs choses dans ce que tu m'as dit. Tu m'as parlé de hasard. Tu crois vraiment au hasard, Charlotte ?
Alors, c'est un peu comme si tu me demandais si je croyais en Dieu ou si je croyais en la vie après.
Je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé est-ce que tu crois au hasard ?
Non, mais pour moi, c'est. Je dirais pas que c'est la même chose, que c'est pas du tout la même chose, mais c'est en fait des réponses sur lesquelles on peut pas forcément répondre. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas la réponse à ça. Est-ce que je crois au hasard ? Je sais pas si c'est le hasard, mais je pense que c'est comme tout, en fait. Ça dépend. Quelqu'un. Bah, y a plein de gens qui ont fait la même formation que moi. Il y a d'autres étudiants qui ont fait le même sujet que moi et qui n'ont pas accroché, en fait. Donc, c'est juste une question de personne au bon moment, au bon endroit. Et ça a résonné à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est tout. Mais en soi, est-ce que c'était une destinée que je tombe sur ce sujet-là ? Peut-être pas, j'en sais rien.
J'en sais rien du tout. Tu m'as parlé de rituel, de sens, et que c'est vraiment que c'était quelque chose qui titillait une corde sensible chez toi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça va chercher, justement, cette question du rituel, cette question
Bah, en fait, ce que je trouve très beau dans la ritualité, pardon, c'est de justement d'essayer de donner du sens. Alors le sens, on détermine comme on veut, mais... sur des choses où, à la base, on ne sait pas comment faire. Ou même les mots, on n'arrive pas à en donner, quoi. Et donc, du coup, on fait des gestes. Et moi, je trouve ça très beau de regarder des rituels, que ce soit religieux ou pas, même des rituels familiaux. Il y a plein de trucs, même dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, où, en fait, il y a plein de petits rituels. Et bien, en fait, ça donne du sens. Ça nous permet d'exister, de dire que c'est comme ça, et parce qu'on est plein d'autres à l'avoir fait avant. Et donc, ça donne du sens, quoi. Alors que c'est peut-être la seule façon de donner du sens à certains moments dans nos vies. Mmh. Et ça, c'est ça qui me... Bah, je sais pas, je trouve ça très beau, quoi.
Ouais, ça te fascine. On voit dans tes yeux, c'est chouette.
Ouais, ça me fascine.
Ok. Du coup, le funéraire, tu le vois... Comment tu vois le monde du funéraire aujourd'hui ? Pour toi, ça ressemble à quoi, le funéraire, aujourd'hui ?
À quoi ça ressemble le funéraire aujourd'hui ?
Et t'as le droit de faire une réponse ambivalente, hein ?
Partie A. Partie B, partie C.
Bah oui, voilà.
Titre. Oui. Ouais. En fait,
synthèse, s'il te plaît.
C'est ça. D'abord, je pense que le premier truc qui me vient en tête, c'est caché. Parce qu'en fait, si on ne s'intéresse pas au sujet... Alors oui, nous, toi et moi, on baigne dedans tous les jours. On rencontre des professionnels. Enfin voilà. Et encore que, est-ce qu'on baigne dedans tous les jours ? Oui, non, c'est pas comme les...
Ah, c'est pas comme les conseillers funéraires ou les thanatos ou ces métiers-là ou les directeurs de pompe qui sont dedans, quoi.
Ouais. Je pense que nous, on a aussi un petit peu cette position encore plus facile. C'est qu'on peut en parler des heures sans avoir à être touché directement par la vérité et le chagrin des familles directement. Mmh. Mais je dirais que c'est quand même caché, quoi, parce qu'en fait, dès qu'on en parle à quelqu'un, sur le fait qu'on a créé Néorite ou même de la mort en général, c'est même pas que c'est tabou, mais les gens sont surpris. C'est ce que je disais au début, il y a une forme de curiosité, comme si c'était un truc, une occasion de parler d'un truc où on a plein de questions, quoi. Et moi, ça m'étonne toujours, en fait, de me dire que les gens sont toujours super contents d'en parler, et en même temps, on n'en parle jamais. Et en même temps, quand il y a des sujets sur des bouquins ou des revues sur le sujet, c'est pas les gens vont pas jeter dessus non plus, quoi.
Non, ça, donc, c'est
un
sûr.
Truc de on est passionné un peu comme presque une passion un peu malsaine, quoi. En fait, on a envie de savoir des trucs mais pas trop, voilà. Donc d'abord, je dirais que le monde du funéraire, il est caché, et après, quand on est dedans, que c'est là, si je parle plutôt du métier, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et passionnants, du coup, enfin qui en deviennent passionnants, et ça, c'est quand même super chouette. Surtout que nous, on a souvent l'occasion d'aller sur le terrain, donc de rencontrer des conseillers, des thanatos, des gens qui travaillent dans le secteur tous les jours. Et j'aime beaucoup comment ils parlent de leur métier. Même si, voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, et c'est normal, parce que moi, j'ai une vision qui est différente de ce qui se fait aujourd'hui. Mais la passion, en tout cas, on ne pourra jamais la retirer, quoi.
Non, c'est le truc qui est fascinant dans ce milieu-là, en fait. C'est que tous les gens avec qui tu discutes, tu... En fait, t'es globalement bien reçu. Enfin, c'est difficile, c'est rare que quelqu'un n'ait pas envie de discuter, ne serait-ce que le bout de gras, 5 minutes, pour... Non, mais c'est vrai, hein. C'est vraiment cool. Et ouais, et puis tu sens que, en fait, t'es pas... Voilà. T'es pas là par hasard quand même, quoi. Il y a un truc, il y a quand même une sensibilité, c'est la grande, 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 grande majorité des gens qui bossent là-dedans, quoi. Mmh. C'est vraiment cool. Tu peux nous parler un peu du coup de la source maintenant, ou de Néorite, du coup de Néorite aujourd'hui, et de en fait votre proposition et votre proposition de valeur sur ce que vous avez conçu.
Alors, je disais en introduction qu'on était fabricant de mobilier funéraire innovant. Nous, ce qu'on s'est dit justement, c'est quand on est parti de la source, et ça, c'est le processus design. À la base, c'était pas un business, c'était comment donner du sens à... Parce qu'en fait, faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a une laïcisation de la population, donc les gens croient de moins en moins en Dieu, il y a de plus en plus de cérémonies civiles qui sont liées à ce facteur-là et à la hausse de la crémation. Les lieux, le crématorium notamment, qui était un lieu technique, qui s'est transformé en lieu d'accueil en quelques décennies. Enfin, il y a eu des mutations énormes dans ce milieu-là. Et donc, les professionnels, ils ont dû adapter très très vite, en tout cas proposer des solutions aux familles, très très vite, mais j'ai envie de dire aussi un peu à leur sauce, comme ça, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et donc à la base de la source, c'est comment proposer une forme d'alternative à la cérémonie traditionnelle. Et quand je dis traditionnelle, c'est par exemple, tu vas dans le lieu de culte où tu vas à l'église, parce qu'en fait, tu n'as pas du tout envie d'aller au crématorium, parce que la salle, elle est glauque, tu as des néons au plafond, tu as... au fond de la salle, un tableau avec un chemin qui va vers l'infini, mais il y a un truc qui sonne faux, quoi. Et c'est là où je pense que pour beaucoup, même si on ne croit pas en un dieu ou en dieu dans l'édifice dans lequel on est, en fait, ça fait plus de sens d'être avec la communauté qui y croit à la limite, de faire tous ces rituels qui font sens et qui ont l'air qui ont été faits depuis des millénaires, que d'être dans un endroit vide de sens, en fait. Et c'est quand même triste, parce que je veux dire... il n'y a pas de lieu qui te représente à la fin et qui te permette de t'exprimer. Parce que c'est pas parce que tu crois pas en Dieu que tu crois en rien. Ça, c'est vraiment très différent. On a quand même tous besoin de symboles, etc. Et la source, c'est un catafalque qui permet la mise en place justement de nouveaux rituels au moment de la cérémonie, notamment autour de la symbolique de l'eau. Donc en fait, il y a un catafalque. Enfin, c'est le catafalque. Devant, il y a on appelle le bassin. Alors, c'est une partie où il y a de l'eau. Et au moment du geste d'hommage, les familles et les proches sont invités à déposer un objet d'hommage. Donc ça peut être une bougie, une fleur, un mot, un peu ce qu'on veut en fait. Et lorsque tous les proches en fait ont déposé leur objet d'hommage dans l'eau, les objets d'hommage viennent avec un léger courant de part et d'autre du défunt, du cercueil en fait. Et simultanément, le cercueil descend progressivement dans le catafalque, ce qui marque la fin de la cérémonie. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu faire. C'est un outil pour les professionnels, pour qu'eux-mêmes puissent proposer des alternatives à leur famille. Ça, c'est une possibilité de mise en scène, en fait, mais parce que les rituels, c'est de la scénographie. Bon, il pourrait y en avoir plein d'autres avec l'outil, avec cet outil-là, en fait, avec ce catafalque. Mais voilà, c'est des symboles qui sont universels, qui sont utilisés dans plein de religions. L'eau, on n'est pas les seuls à y avoir pensé, la bougie non plus, hein. Il y en a quand même beaucoup. Mais c'est ça aussi qui fait la force, c'est qu'on réutilise des choses qui parlent un peu à tous. En tout cas, qui pourraient être amenées à toucher, d'une façon ou d'une autre, quelque part, un petit moment, quelqu'un. Donc ça, c'est le catafalque, la source. Et puis on a un deuxième catafalque qui est l'universel. Et à la base, on ne s'est jamais dit qu'on allait faire des catafalques, mais en fait, on s'est rendu compte que pour commencer à proposer des alternatives aux familles, il fallait proposer des outils aux professionnels. Et donc, un outil qui, pour nous, avait été peu réfléchi, en tout cas, qui avait beaucoup de potentiel, mais qui n'avait pas forcément été amené, c'est justement le catafalque. Parce que catafalque, c'est quand même le support de la dernière scène du défunt, quoi. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a le conseiller, il y a le maître de cérémonie, il y a la famille, il y a les proches, mais c'est quand même son dernier espace, quoi. Et donc, l'idée, c'est comment on peut le personnaliser, comment on peut s'approprier cet espace et le rendre vraiment le plus semblable à la personne qu'elle était. Donc, ça marche pour la source, mais ça marche aussi pour l'universel. Là, c'est un catafalque qui est plutôt pour les chambres funéraires. Et en fait, il y a plusieurs accessoires qui viennent de se clipser. Donc, c'est des tablettes qu'on met à l'avant, sur le côté, un emblème religieux qu'on vient aimanter. Et donc, ça permet de pouvoir mettre les photos, par exemple, au même niveau que la tête du défunt, pouvoir mettre des médailles, pouvoir mettre des objets personnels. Parce qu'aujourd'hui, on pose des fleurs par terre, par exemple, ou on pose des objets, on les pose par terre. C'est des petits détails, mais ça permet déjà de... Ça facilite pour la famille, en fait, le processus qui est à venir aussi. Et ces petites tablettes, par exemple, alors oui, hein, c'est pas compliqué. Par exemple, pouvoir mettre l'urne à côté du défunt, pour certains, ça peut être hyper important, parce que pour beaucoup de familles, quand on les interroge, en fait, ils n'ont pas vu l'urne pendant toute la préparation de la cérémonie ou des obsèques. Et en fait, à la fin, ils se retrouvent avec une boîte comme ça. Et là, c'est un choc, quoi, parce qu'en fait, on passe de la grosse boîte à la petite boîte. Et donc, le fait de pouvoir déjà, pendant la cérémonie, faire le lien visuel, en fait, entre mon défunt, sa situation actuelle et son devenir, ça, dans un sens, ça n'a pas de prix, quoi.
Donc, ça change tout.
C'est ça. Et donc, nos conceptions de produits, on ne fait pas du mobilier pour du beau, on fait du mobilier pour qu'il soit utile et toujours dans cette quête de sens, pour qu'il fasse sens pour les familles.
Si tu avais un livre... Justement, un film, un docu, enfin quelque chose en tout cas qui t'a nourri dans ta compréhension du milieu du funéraire, etc. Ou voilà, quelque chose qui t'a vraiment percuté, que t'aimerais partager, ça serait quoi?
Alors, je t'avoue que j'ai un peu préparé cette question, quand même, parce que je sais qu'elle arrivait.
On sent l'auditrice fidèle.
Ouais, non mais pour de vrai, parce qu'en fait, j'en ai toujours en tête, mais je dis lequel vraiment j'aurais envie de partager. Et c'est là où je suis allée chercher dans ma bibliothèque pour un peu regarder ce que j'avais. Donc, je les ai sous les yeux. Un des premiers, ouvrages que j'ai acheté, et c'était quand, justement, j'étudiais encore, je commençais à fouiner dans le domaine de la mort. C'est une revue qui s'appelle la Revue 303. Donc, je te la montre, mais les auditeurs ne pourront pas voir.
Ouais, Mathéo m'en avait parlé de la Revue 303.
Mais d'ailleurs, je l'ai entendu quand j'ai entendu son podcast, je me dis.
Ouais.
Je pensais être la seule. Là, je suis un peu déçue, mais quand même. Mais je vais le dire quand même parce que c'est
vrai. On va le redire parce que voilà, il s'est passé un peu de temps depuis Mathéo, donc voilà.
Et la revue, donc c'est une revue faite indépendante des Pays de la Loire. Donc avant, j'étais quand même étudiante à Nantes, donc voilà, c'est normal. Et en fait, il y avait un numéro spécial sur les arts et rites funéraires qui m'avait vraiment marqué. Donc voilà, je l'avais beaucoup aimé. Et sinon, il y a un autre bouquin. Donc ça, c'est un essai d'un sociologue qui s'appelle... Alors, comment il s'appelle? Jean-Hugues Deschaux. Mm-hmm. Est-ce que je l'ai écrit? Voilà, Jean-Hugues Deschaux. Et ça s'appelle « Le souvenir des morts ». Et donc là, c'est vraiment... avant de se coucher, c'est parfait. C'est vraiment sur le principe de la mémoire, de l'individualisme aussi, du lien de filiation aussi. Enfin, c'est hyper intéressant sur... Est-ce qu'on oublie nos morts? Est-ce qu'on les oublie pas? Pourquoi on finit en fait à vouloir des enterrements privatisés un peu, mm-hmm. que les proches, alors que c'est un concept avant qui n'existait pas. Enfin, je veux dire, le village allait dans la maison du mort. Donc, comment on est passé de ça à faut que ce soit intimiste. Mm-hmm. Enfin, il y a plein de trucs intéressants là-dessus. Et la phrase que je préfère dans son bouquin, c'est, je crois que c'est ça, c'est « Les rites font les bons morts ». Et là, je trouve que ça résume un peu ma philosophie de manière générale. Pourquoi ça fait des bons morts ? C'est que ça fait des bons vivants. Des bons endeuillés.
Si, c'est pas...
Voilà.
Bah si.
Donc, c'est pour ça. J'aime beaucoup cet ouvrage.
Ok. Si Julien était là, tu penses qu'il rajouterait quelque chose à ce que t'as dit, Charlotte, ou pas ?
Oh, il rajouterait plein de choses. Parce qu'on n'a pas du tout la même vision de... Et c'est ce qui fait qu'on est complémentaires. Donc, en fait, il faudrait que tu refasses un épisode avec Julien. Moi, c'est la proposition que je te fais. Pour que tu aies la vision de Julien, de Néorit. Mais là, tout de suite, non, j'espère qu'il serait assez aligné avec ce que j'ai dit.
Vous avez écouté la face A. Nous allons passer dans un instant à la face B. Bon, alors Julien, toi, tu me racontes pourquoi tu as tout plaqué pour Néorit.
La particularité du funéraire, c'est aussi de travailler sur un sujet qui concerne littéralement tout le monde. Tout le monde passe par cette étape-là à un moment donné, que ça soit pour ses propres funérailles ou pour celles d'un proche. Et c'est assez rare dans le design, en tout cas dans le métier de designer, de trouver des sujets, des domaines d'activité comme ça qui touchent vraiment tout le monde, et ça apporte énormément de sens à ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est ça le gros atout de Néorit. Aujourd'hui, c'est que pour nous, c'est on crée du sens à travers notre métier. On essaye vraiment d'apporter du sens à des gens, et puis ça nous donne aussi du sens, nous, dans notre quotidien, dans notre travail.
Quelle vision, toi, tu as du monde du funéraire aujourd'hui ? Et quelle vision t'as ? Et comment tu le vois évoluer demain ?
On a commencé à observer le milieu du funéraire en 2016. L'intuition qu'on a, ou la perception qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté, ou en tout cas, j'ai l'impression que le milieu du funéraire a envie d'avoir des nouvelles choses, de proposer des nouvelles choses. Que ça soit, sur tout milieu confondu, c'est aussi l'arrivée de pas mal d'acteurs dans le numérique, de pas mal de services après obsèques. Et aussi une volonté de personnalisation des cérémonies, personnalisation des obsèques. En tout cas, que j'avais pas l'impression qu'elle était aussi présente quand on a commencé à observer le milieu. Donc j'ai l'impression que ça va dans cette dynamique-là. Et du coup, le milieu est aussi en attente de nouvelles choses, et a envie d'avoir, de pouvoir proposer l'innovation, c'est peut-être un peu gros comme mot, mais des alternatives aux familles, ou en tout cas de pouvoir proposer des choses qui soient plus proches de ce qu'elles recherchent.
À ton avis, toi qui connais bien Charlotte, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire, enfin qu'est-ce qu'elle aurait pu ne pas dire, que toi seul pourrais dire au sujet soit de Néorit ou soit de la chose que Charlotte n'aurait pas dite ?
Honnêtement, je pense que Charlotte a pu parler de à peu près tout ce qu'on peut parler sur Néorit, parce que c'est vraiment elle qui porte la vision aussi de Néorit. Pour expliquer aussi un petit peu, moi, mon rôle aussi dans Néorit, c'est vraiment de formaliser les choses et de les rendre concrètes. Du coup, tout ce qui est, tout ce qui est vision, tout ce qui est marché, tout ce qui est évolution, Charlotte là, Charlotte sait y répondre. Moi, je suis dans le concret, tu vois, je suis dans le produit, c'est moi qui mets ça en forme. c'est ça le truc. Donc non, je pense que Charlotte a pu aborder à peu près tous les sujets sur lesquels on peut aborder de Néorit. Ouais, peut-être à part quelques détails des dossiers de subvention, tu vois, par exemple. Mais,
ouais, mais ça, on va pas rentrer dans les
détails. Mais ça, je pense que c'est pas intéressant.
Ok. Du coup, Julien, si si t'avais un seul livre de chevet ou film ou docu ou truc ou ce que tu veux, que tu aimerais partager. Alors, qu'il soit en lien avec le funéraire ou pas, d'ailleurs. C'est vraiment toi qui... Je te laisse la main.
C'est particulier Mais moi, j'ai un film comme ça qui me vient en tête. C'est le film Midsommar.
Oh la vache!
J'ai pas le nom du réalisateur. Je sais pas si tu vois.
Ouais, je vois très très bien.
Ouais. Et en fait, je me souviens qu'il m'avait marqué pour comment je pourrais expliquer ça, mais
l'esthétique.
L'esthétique d'une part, oui, ça c'est sûr, mais c'était le caractère brut de la mort. Mais c'était pas forcément, il y a des scènes qui sont un peu gore, mais il y a certaines scènes qui sont, brutes, vraiment brutes, sans jugement derrière, mais ça fait vraiment l'image de ce qui se passe, quoi, concrètement, quoi. La mort, ça ressemble à ça. Et c'est ça qui m'a marqué un petit peu dans ce film-là. Bon, après l'aspect esthétique, moi ça m'a et le contraste entre concrètement le contenu du film et de l'histoire et on va dire la lumière et le côté très champêtre de l'environnement, je trouvais ça intéressant aussi.
Donc Midsommar.
Oui, c'est la première chose qui m'est venue en tête.
Ok, très bien. Donc amis auditeurs. Ok, si vous voulez aller voir ce film ou regarder un peu, donc Midsommar, voilà, c'est Midsommar, voilà, et c'est un film d'Ari Aster. Voilà. Ari Aster étant un peu spécialisé dans les films un peu, comment dire ça, qui pourraient être considérés un peu comme à la marge quand même, hein, parce que c'est un peu particulier, tu vois, faut avoir envie de le regarder, le truc. Même si le pitch de départ est très bien, le film, il est ce qu'il est. Il faut être préparé. Oui, donc c'est pas à mettre devant âme sensible, s'abstenir. C'est pas gore comme un film d'horreur traditionnel ou ce que vous pourriez avoir l'habitude. C'est comme il a dit, c'est brut. C'est, ouais. C'est vraiment brut. C'est vraiment brut. Ok. Si t'avais un mot de la fin, du coup, un mot de la fin, du coup, ça serait quoi?
Pour un mot de la fin, je dirais que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, parce que j'ai la sensation qu'il va se passer beaucoup de choses, en tout cas dans le milieu du funéraire, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, et j'ai hâte de voir aussi ce qu'on va pouvoir proposer du coup dans ce milieu-là. Donc voilà, j'ai pas le mot justement.
C'est impatient, non? C'est pas ça le mot qui va avec?
Non, justement, c'est pas de la patience, mais j'ai hâte, on va dire c'est la hâte, je suis curieux de voir vers où ça va aller. C'est plutôt ça, la curiosité.
Si je devais te laisser le mot de la fin, du coup, tu dirais quoi, Charlotte?
Ça, je l'ai pas préparé, par contre.
Bah non, c'est bien, parce que sinon, c'est...
Le mot de la fin, continuons tous ensemble à travailler dans ce domaine qui est fabuleux. Moi, je trouve ça génial de voir qu'on est beaucoup à essayer de faire des choses. Que c'est un secteur qui est vraiment passionnant. Et écoutez le podcast de Vivant, bien sûr, pour en apprendre davantage.
merci beaucoup, Charlotte, pour ce bon moment passé ensemble. C'était trop
cool. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, bonne continuation à vous. Bon vent. Et puis, prenez soin de vous. Hein.
Bah oui, à toi aussi, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir Vivant, vous pouvez mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify avec un commentaire. Et puis, partagez, bien entendu, cet épisode sur vos réseaux sociaux, likez, commentez, ou pourquoi pas en parler tout simplement autour de vous et à vos amis. Vous dire aussi que Vivant vient de dépasser les 100 000 écoutes depuis sa création, donc merci beaucoup d'être présent, de votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Mon invité sera Valérie Seguin. On parlera des expériences de contact spontané avec nos défunts, de notre intuition et comment celle-ci peut nous guider dans notre vie. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.